On poursuit notre série dans l'évangile de Jean. Nous sommes ce matin au milieu du chapitre 17. C'est à la page 702 dans les Bibles blanches de l'Église. Et je vais prier d'abord. Prions. Merci à notre bon Père Céleste. Pour ton Saint-Esprit, merci de ce que tu as envoyé ton Esprit sur les apôtres. Merci Père de l'avoir donné à cette époque-là. Merci parce que tu as répandu aussi ton Esprit sur nous. Il habite en nous, il est dans nous, dans l'Église. Et nous prions que pendant que nous lisons ta parole, la parole qu'il a lui-même inspirée, que tu nous parles par lui, qui s'adresse à nous, qui nous enseigne, qui nous conduit vers toi par Jésus. Et notre bon Père Céleste, nous te demandons ces choses au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Donc, Jean 17, verset 6. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à moi, à toi. Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie. Une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi. Je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Donc voici notre passage pour ce matin, et Dieu voulant, on verra la suite de la prière de Jésus la semaine prochaine. Est-ce que vous avez parfois l'impression que plus ça change, plus c'est la même chose, la vie continue comme avant? Les infos sur BFM TV se répètent sans cesse en boucle. Élections, violences, disputes, controverses, haut et bas, déception. Et contrairement au vin, la nature humaine ne se bonifie pas avec le temps. Alors Jésus est venu il y a 2000 ans, mais qu'est-ce que ça a changé exactement? À quel point est-ce que sa vie et sa mission ont eu un effet, ont changé des choses? Ce matin, dans le passage de ce matin, on est toujours dans cette prière de Jésus, peut-être la plus longue prière que nous avons de Jésus. C'est Jean, son ami proche, l'apôtre, qu'il a mis par écrit pour nous. Et comme Jésus nous dit au milieu de cette prière, nous l'avons, il a dit à haute voix, pour notre joie, pour que notre joie soit complète pour nous. Il a donné pour nous réconforter, pour nous fortifier, nous qui l'étudions 2000 ans plus tard, pour que nous puissions nous aussi avoir notre joie en lui. Alors, en quelque sorte, cette prière de Jésus peut être résumée par les paroles d'une autre prière de Jésus. Le Notre Père que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu. Et là, Jésus nous a enseigné à prier « Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne ». Sur la terre comme au ciel. Et ça, c'est un peu ce que Jésus est en train de prier dans cette prière. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et la semaine dernière, Keith nous a parlé à partir de la première partie de la prière de Jésus. Voilà où Jésus il nous a parlé de comment Jésus priait pour lui-même, que la volonté de Dieu s'accomplisse en lui, en sa vie, en sa mort, en sa résurrection, en son règne, que sa gloire soit manifestée. Parce que sa gloire manifeste la gloire du Père. Et cette gloire manifestée lui permet de le connaître tel qu'il est, lui permet de connaître Dieu. Et cette connaissance-là, c'est l'essence de la vie éternelle. Ça change bien des choses. Et Jésus veut nous encourager, fortifier ce matin, augmenter notre joie en lui, en nous montrant que la volonté de Dieu s'est déjà accomplie. Que cette prière de Jésus pour que la volonté de Dieu s'accomplisse a été exaucée, Dieu a été fidèle, et que cette volonté accomplie à cette époque est en train de s'accomplir aussi parmi nous. Quelque chose de radicalement neuf s'est passé il y a 2000 ans. Peut-être on peut douter des effets, mais ce passage nous montre que si la mission a été accomplie, la volonté de Dieu s'est accomplie et ça change bien des choses. On va voir ça en deux temps ce matin. Premier temps, premier point, mission accomplie, ils ont reçu la parole. Mission accomplie, ils ont reçu la parole. Et dans un deuxième temps, mission accomplie, ils ont été protégés et sanctifiés par la parole. Donc d'abord, mission accomplie, ils ont reçu la parole. Et dans les premiers versets de notre passage de ce matin, on entend Jésus prier son Père et dire à son Père que la mission que le Père lui a confiée a été accomplie. Et là, Jésus parle de tout ce qu'il a fait sur la terre lors de sa vie sur cette terre, c'est-à-dire tout ce que nous avons vu dans l'évangile de Jean, depuis le début de l'évangile de Jean. Premier chapitre, la parole s'est faite chair. Elle a tabernaclé parmi les hommes. Elle a la présence de Dieu, ce temple, ce tabernacle, s'est donné à voir dans le monde. Un monde quand même de ténèbres et d'opposition à Dieu. Jésus est venu dans le monde. Alors, je ne sais pas si vous aimez les films avec des agents secrets. Moi, j'aime bien ce genre de films. On confie typiquement une mission dangereuse à un agent secret qui doit remporter cette mission malgré les contretemps, malgré des problèmes inattendus. Mission impossible avec Tom Cruise, c'est un de ces films-là que j'aime bien. Alors Jésus, on sait, n'est pas un agent secret. Hein. Mais il est venu dans un monde hostile. Et humainement parlant, sa mission était impossible. On le voit au chapitre 1. Impossible. Il est venu pour sauver un peuple. Faire venir un peuple à Dieu qui, humainement parlé, ne voulait pas venir à Dieu. Ce peuple préférait les ténèbres, préférait fuir loin de la face de Dieu. Mais Jésus, ici, dans ce passage, annonce que la mission que Dieu lui a confiée a été accomplie. Les hommes du milieu du monde, c'est-à-dire du milieu de ce monde hostile à Dieu, ont gardé la parole, de Dieu. C'est-à-dire, ils ont reçu la parole faite chair, Jésus lui-même. Ils sont venus à Jésus. Ils ont mis la confiance en lui. Et Jésus, en disant ça, parle bien sûr de ses apôtres réunis autour de lui. En fait, cette partie de la prière concerne vraiment les apôtres en premier lieu. Ces apôtres qui l'écoutent, qui sont là, qui entendent la prière. Et ces hommes-là, ces apôtres, ont reconnu que Jésus est vraiment le Fils du Père. Qu'il est vraiment la vraie révélation de Dieu lui-même. Et qu'en voyant Jésus, il voit le Père, son amour, sa bonté, sa justice, sa souveraineté, sa puissance, son amour. Il voit tout ça, il voit le Père en Jésus. Jésus, vraie révélation du Père. Et en fait, ce que Jésus dit par rapport aux apôtres a dû les rassurer. Ils sont juste à quelques heures de la croix. Jésus est en train d'annoncer que la mission a été accomplie. Ils sont vraiment des enfants authentiques de Dieu. Et ça a dû rassurer ses disciples après aussi, quand ils se sont souvenus de ce que Jésus a dit, après sa mort, après la croix, après après la résurrection, après l'ascension, lorsqu'ils étaient en mission dans les moments très difficiles. Jésus avait dit, ces hommes sont des enfants authentiques de Dieu. La mission a été accomplie. Et je pense que c'était d'autant plus rassurant que Jésus a expliqué quelque chose de plus. Oui, ses disciples ont gardé la parole. Ils ont reçu Christ, ils ont mis la confiance en lui. C'est ce qu'ils ont fait eux. Mais s'ils ont pu faire ça, c'est parce que le Père a fait quelque chose aussi. Est-ce que vous avez vu ça au verset 6? Là, on lit, « Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Et Jésus répète ça au verset 9. « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. » Et c'est un peu comme deux faces d'une seule pièce de monnaie, 1 euro, 2 euros, quelque chose comme ça, avec deux faces. Sur une des faces, les apôtres ont reçu Christ. Ils ont entendu la parole de Jésus, ils ont cru la parole, ils ont mis la confiance en Jésus. C'est ce qu'ils ont fait, eux. Et sur l'autre face, on apprend qu'ils appartenaient déjà au Père. Et c'est le Père qui les avait donnés au Fils, bien avant qu'ils aient suivi Jésus. Oui, les disciples ont agi à un moment donné de leur histoire personnelle, à un moment donné de l'histoire du monde. Ils ont entendu Jésus, il était là, physiquement présent. Les disciples étaient là, ils ont entendu, ils ont compris des choses, ils ont mis la confiance en Jésus. Et en même temps, s'ils ont pu faire ça, s'ils ont pu croire en lui, recevoir Jésus, ah, c'est parce que le Père les avait donnés au Fils. On a déjà appris cette leçon au chapitre 6, parce qu'au chapitre 6, on a lu, c'est Jésus qui le dit, « Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Jésus nous montre ici que c'est Dieu qui a accompli ses desseins éternels. Il a fait de manière souveraine, sans transformer des hommes en robots. Bien sûr, ça nous dépasse. Les desseins éternels, les voies de Dieu nous dépassent. Et ce n'est pas surprenant parce que Dieu est bien au-delà de nous, bien plus grand que nous, bien plus intelligent que nous, bien plus sage que nous. Jésus a révélé cette vérité-là à ses apôtres, non pas semer le trouble, non pas pour lancer une grande discussion polémique au sujet de la souveraineté illimitée de Dieu, pour les rassurer, pour leur dire « c'est Dieu qui est aux manettes de l'histoire ». Il a envoyé son Fils, la parole faite chair. Il a envoyé dans le monde avec une mission impossible. Et il a accompli cette mission. Il sauve. Il a déjà commencé à sauver un peuple. Un peuple qui maintenant connaît Dieu. Qui reconnaît maintenant le Père en le Fils. Qui maintenant aime le Fils. Et s'il aime le Fils, il aime aussi le Père. Une mission extraordinaire de renverser les effets de la chute. Ça, c'est ce qu'on a vu il y a quelques mois, à partir du mois de septembre, lorsqu'on a étudié le livre de la Genèse. On a vu comment nos premiers ancêtres, Adam et Ève, se sont rebellés contre Dieu. Ils se sont rebellés contre la parole de Dieu. Ils ont douté la parole de Dieu. Ils ont remplacé la parole de Dieu avec une autre parole, la leur. Et on a vu les conséquences aussi. Ils ont été chassés loin de la présence de Dieu. En dehors de ce jardin qui était comme un tabernacle, comme un temple, là où ils étaient en communion avec Dieu. Ils étaient aliénés de Dieu, loin de lui, chassés de sa présence. La communion avec lui avait été rompue. Et ici, on apprend que Jésus a accompli sa mission. Il a pris des hommes du milieu de ce monde hostile. Les hommes étaient aliénés, loin de Dieu. Et ces hommes maintenant gardent sa parole. Chose que Adam et Ève n'ont pas fait. Maintenant, ils aiment Dieu. Ils aiment le Fils. Ils ont une communion avec Dieu. Ils sont même la demeure du Saint-Esprit. Non pas parce qu'ils sont plus forts, plus intelligents, plus perspicaces que d'autres. Non, loin de là. En fait, rien en eux peut être une source de fierté. C'est tout simplement parce que le Père, dans son grand amour, les avait donnés au Fils. Ils étaient au Père, et grâce au Père, qui aime donner, ils sont maintenant au Père et au Fils. Pour nous, 2000 ans plus tard, cette première mission accomplie peut nous rassurer. Les apôtres, ceux qui nous ont donné l'évangile, même cet évangile que nous lisons ce matin, l'évangile de Jean, c'est Jésus qui le dit, sont des enfants authentiques de Dieu, choisis par Dieu. Jésus le confirme. Il est venu pour prendre ces hommes. Nous pouvons croire leur parole. Et 2000 ans plus tard, ce n'est pas différent pour nous non plus. Comme on va voir dans le texte suivant la suite de la prière de Jésus, certes, on n'a pas eu la même expérience que les apôtres, mais grâce à la parole, nous sommes venus aussi à Jésus, grâce à leur témoignage. On a reçu Christ. Nous avons été pris également du milieu du monde. Un miracle aussi. Et si c'est le cas, ce n'est pas parce qu'en nous-mêmes, on est plus intelligent, plus perspicace, plus fort que d'autres qui ne croient pas. Loin s'en faut, on est pécheurs. On est tous beaucoup plus faibles qu'on ne le pense, enclins au mal, au doute. Mais le Père, dans sa bonté, nous a donné à son Fils. Et à un moment donné de nos vies, avec nos expériences personnelles différentes, on est venu à Jésus. On a mis notre confiance en lui. Et ça veut dire que nous sommes le cadeau que le Père a donné à son Fils. Dans Jésus, on a goûté à cette vie éternelle. C'est à la fois humiliant, on n'y est pour rien, mais tellement rassurant, c'est lui qui l'a fait. Rien en nous nous prédisposer à ça, nous qualifier pour ça. Il y a 2000 ans, quelque chose de radical s'est passé. Jésus a accompli sa mission. Il a pris des hommes du milieu du monde pour être à lui. C'est fait, c'est chose faite. Ces apôtres, quoique faibles, pécheurs, enclins au mal, au doute eux aussi, sont venus à Jésus. Jésus a accompli la mission que le Père lui a donnée. Ils sont faibles, ils étaient faibles, et c'est pour ça que Jésus prie pour eux. Et on est à notre deuxième section. Pour ce matin, mission accomplie, ils ont été protégés et sanctifiés par la parole. Et c'est au verset 9 que nous apprenons, que nous voyons, que Jésus prie spécifiquement pour ces hommes-là, à cette époque-là, ces apôtres, les hommes que le Père lui a donnés. Et Jésus tient à prier pour ces hommes. Et on sait que Jésus prie selon la volonté du Père. On a déjà appris que Jésus est un avec le Père, que le Père est en Jésus et Jésus est en le Père. Et ça veut dire que s'il y a une prière qui sera entendue, bah c'est celle de Jésus. Être au bénéfice de la prière de Jésus, c'est tellement rassurant. Lui connaît la volonté de Dieu. Et en effet, on verra que cette prière a été exaucée. Jésus prie que son Père garde, protège ce que le Père lui a donné. Verset 11. « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les, protège-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Donc Jésus s'en va. Ça, c'est le thème de cette partie de l'évangile de Jean. On est dans cette thématique depuis plusieurs semaines. Et dans ce passage, on est juste à quelques heures de la crucifixion. Jésus explique que jusqu'ici, c'est lui en personne, la parole faite chair, c'est lui en personne qui les a gardés au nom que le Père lui a donné. Il les a gardés. C'est Jésus qui, jusque-là, les avait protégés. Parce que Jésus, on le voit ici, est conscient de la grandeur du combat spirituel qui fait rage. Il y a un combat spirituel. Dans ce passage, il nous rappelle le sort triste de Judas, le fils de perdition. Il nous rappelle aussi qu'il y a un malin. Dans notre traduction, c'est traduit plutôt « préserver du mal », mais peut-être c'est mieux de traduire « préserver du malin »,« délivrez-nous du malin ». Jésus est conscient qu'ils ont besoin d'être protégés. Alors Jésus ne veut pas nous inciter à avoir peur ou à avoir des démons partout. Il ne nous invite pas non plus à chercher, à nous ouvrir à ce monde-là, à nous intéresser outre mesure à ce monde-là. Et c'est vrai, je pense qu'il y a certaines dérives dans certains milieux concernant tout ça. Et en même temps, il nous rappelle qu'il y a quand même une guerre spirituelle, un combat spirituel qui est vraiment réel. Jésus est conscient qu'il laisse ses disciples dans le monde et qu'ils ne sont plus du monde, eux. Il les laisse dans le monde, derrière les lignes de l'ennemi, en quelque sorte, en territoire occupé, et que ça ne va pas être facile pour ses disciples. Jésus a été détesté. On le voit dans ce passage, on est à quelques heures de sa mort. Voici la preuve concluante de la haine du monde à son égard. Et ses disciples, parce qu'ils sont à lui, parce que Jésus a pris du monde, seront également détestés. Et Jésus prie que Dieu les protège, qu'ils soient protégés, en particulier pour qu'ils soient un, pour qu'ils soient un comme lui et le Père sont un, unis comme le Père et le Fils. Une unité, une union très forte. On parlera un peu plus de cette unité la semaine prochaine. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne pense pas qu'il envisage une unité institutionnelle, mais une unité de but, d'amour, de sainteté, dans la mission. Dans cette mission, on voit que c'est bien ça le contexte. Jésus est en train d'accomplir la mission que le Père lui a donnée. Ils sont un dans cette mission, à sauver un peuple. Et le contexte, c'est aussi la mission pour les disciples. C'est ce qu'on voit à la fin de notre passage de ce matin, le verset 18. « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. » Jésus anticipe l'évangélisation du monde. Parce qu'ils ont été envoyés dans le monde avec cette bonne nouvelle, avec l'évangile de Jésus-Christ. Et Jésus prie pour eux qu'ils soient unis dans cette mission. Jésus veut que cette mission s'accomplisse. Il sait que c'est la volonté du Père d'avoir un peuple à lui. C'est la volonté du Père depuis la création du monde, d'avoir un peuple à lui qui le connaît, qui se réjouit en lui, qui lui obéit. Jésus prie pour que ça s'accomplisse. Jésus a déjà dit, c'est dans l'évangile de Matthieu, que rien ne prévaudra contre l'Église. Et c'est dans ce même sens que Jésus prie, que voilà, que l'Évangile aille de l'avant, que rien ne prévaut contre cette Église. Il suffit de lire les Actes des Apôtres pour voir les apôtres envoyés en mission. Ils ont connu leur position, c'est un fait historique. D'abord à Jérusalem, on peut voir les témoignages de l'époque. Et un peu partout, à chaque fois, il y avait de l'opposition. Mais cette opposition ne les a pas divisés, n'a pas arrêté l'Évangile. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des moments entre eux ou quand c'était un peu difficile. Ils étaient des hommes et on voit ça, c'est des témoignages authentiques. On peut penser par exemple à cette dispute entre Paul et Barnabas au sujet de Jean-Marc. Et en même temps, de manière globale, de manière tellement forte, ils ont été unis dans l'annonce de l'Évangile. Il y a une unité remarquable dans cette première génération parmi les apôtres. Et l'Évangile s'est répandu, d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à Rome, jusqu'aux fins du monde, en quelque sorte. Et historiquement parlant, c'est un fait remarquable. L'Évangile s'est répandu de manière étonnante, étant donné les moyens de transport de l'époque. Et c'est grâce à la prière de Jésus. Jésus a prié pour ses apôtres. Il a demandé à son Père de les protéger, de les garder unis dans l'amour en lui, avec cette mission. Dieu l'a fait. Dieu a exaucé cette prière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là. L'Église existe. L'Église existe un peu partout dans le monde. Dieu a répondu à cette prière. La volonté de Dieu s'est accomplie. Et ça nous montre ce que c'est la volonté de Dieu. Il veut qu'une Église unie aille de l'avant dans ce monde. Et on peut penser que, voilà, l'Évangile de manière unie va aller de l'avant même à notre époque. Pensons à nous-mêmes, nous avons besoin de cette même protection. C'est Jésus qui le dit. Nous sommes face au malin. Celui qui aimera semer la zizanie, nous détourner de la mission que Jésus nous a donnée, l'annonce de la bonne nouvelle dans l'amour, dans la sainteté, en vivant l'Évangile en Église. C'est la même mission pour les apôtres. C'est la même mission aujourd'hui. Jésus nous montre que nous aussi, nous avons besoin de cette même protection. Délivre-nous du malin, comme on prie dans le Notre Père. On n'a pas besoin de nous enquêter sur les voies du diable, sur les démons, de nous intéresser outre mesure à ce genre de choses. Mais faire comme Jésus nous dit ici, confier à notre bon Père Céleste qui nous protège. Alors comment est-ce qu'il nous protège au juste? Et c'est la deuxième requête de Jésus qui nous le montre. C'est au verset 17. « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Ou dans d'autres traductions plus connues, ça donne « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et « sanctifier », c'est un mot un peu particulier qui renvoie à l'idée d'être mis à part pour quelqu'un, mis à part pour quelque chose. Voué à quelqu'un ou à quelque chose pour être dévoué à cette chose ou à cette personne. Et en étant voué à cette personne, on lui appartient. On est mis à part pour cette personne. Et c'est la parole de Dieu qui nous garde unis et qui nous fait que nous sommes consacrés à Christ, consacrés à Dieu de manière unie dans le monde. Au verset 19, Jésus dit qu'il se consacre lui-même pour ses disciples afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Et là, je pense qu'il évoque la croix. Lui va donner sa vie pour ses disciples. Il se consacre, il se donne pour ses disciples pour que ses disciples soient lavés, pardonnés, acceptés par Dieu, pour qu'ils soient vraiment à Dieu, pour qu'ils appartiennent à Dieu, pour qu'ils soient sanctifiés. Mis à part pour lui. Et c'est par le moyen de la parole que ça se passe. C'est la parole de Christ, celle de Christ crucifié, ressuscité, glorifié, qui fait que nous sommes à Dieu et que nous restons dévoués, consacrés à Dieu de manière unie. On a même entendu ça dans le témoignage de Nazir. Et c'est quand le malin nous détache de la parole, de la Bible, des Écritures, quand il souffle le doute, comme il a fait dans le jardin d'Éden, quand il nous invite à diluer l'importance de la parole, à mettre un peu d'eau dans notre vin, en quelque sorte, qui met à mal l'Église, que la mission de l'Église s'essouffle. Par contre, la vérité de la parole, quand elle est au centre, est comme un souffle sur les braises, elle garde, elle maintient. Elle entretient ce feu de la mission, de cette unité. Parce que par cette parole, on connaît Dieu. On le voit ici, on a cette vie éternelle où on connaît le Père et le Fils. On vit cette même intimité avec Dieu, grâce à la parole. Et dans l'histoire, avec les apôtres, avec cette première génération, nous voyons cette parole à l'œuvre dès la Pentecôte, qui s'est levée pour l'annoncer. L'Esprit a parlé par lui. Les apôtres ont prêché, ils ont enseigné, et ensuite ils ont mis par écrit cette parole, celle que nous avons entre nos mains ce matin, cet évangile de Jean. Et c'est cette parole évangélique, cette vérité biblique des Écritures qui nous garde unis, qui nous protège. C'est par elle au début que nous sommes venus à Christ. Cette première victoire a été remportée. C'est un peu comme, pour l'illustrer, un peu comme sur les plages de Normandie en juin 1944, une opération militaire difficile, une bataille importante. Il fallait être sur le continent et avoir un port avant de remporter la guerre tout entière. Et on voit dans ce passage que Jésus a pris des hommes du milieu du monde, arrachés de l'empire, de l'emprise du malin. Il leur a donné cette parole par l'Esprit. Ils l'ont annoncée fidèlement. Cette parole est devenue notre Nouveau Testament. Et ça veut dire que cette première grande bataille a été remportée. Ces choses faites, la parole est là dans le monde. La parole puissante est en train de ramener des peuples différents, des générations successives à Dieu. Et la victoire finale de Dieu est en vue. Ça ne s'est pas passé sans problème à l'époque. On peut penser à Paul et Pierre, Antioche. Il y avait parfois des disputes. On peut penser au concile de Jérusalem. Mais à chaque fois, c'est la parole de l'Évangile qui a gardé unie l'Église. L'Église faite de peuples différents, de juifs et de non-juifs. Ils devaient revenir à chaque fois à l'évangile, à la vérité, pour rester unis. Ce n'était pas la création d'une institution qui les a gardés unis. Ce n'était pas l'institution d'une hiérarchie ordonnée aux commandes qui a gardé l'Église unie, mais la parole des apôtres, l'Évangile lui-même, le fait d'être attaché à l'enseignement des apôtres, c'est ça ce qui a gardé l'Église unie. Et c'est tout aussi vrai aujourd'hui. Ce n'est pas le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, qui va nous garder unis avec nos frères et sœurs dans les églises évangéliques. Alors le CNEF est utile, il a sa place. En réalité, c'est l'attachement aux Écritures, à l'évangile de la grâce, à la Seigneurie de Jésus-Christ qui va nous garder unis, qui va nous permettre de vivre la mission ensemble avec nos frères et sœurs, même dans d'autres églises. On est ensemble avec nos frères et sœurs qui sont attachés à la vérité, à l'évangile de la grâce, à Jésus. Et en quelque sorte, ça nous ramène au début du passage. Comment est-ce qu'on sait qui sont nos frères et sœurs? Comment vivre cette unité? Ce n'est pas en cherchant une institution, ce n'est pas en cherchant une hiérarchie. Jésus l'a dit au début dans notre passage, il est convaincu d'avoir rempli la mission que le Père lui a confiée. Parce que ces hommes ont gardé sa parole. Ils ont reçu Jésus. Ils se sont confiés en Jésus. Ils sont authentiquement des enfants de Dieu par la parole. Et ça se voit parce qu'ils ont gardé la parole. Si on veut prier à la lumière de ce passage pour notre Église, pour les églises en région parisienne, en France, en Europe, dans le monde, si on veut être unis dans l'annonce de l'Évangile, nous devons prier que le Seigneur nous protège du malin en nous gardant dans la parole, en priant que nous soyons des églises attachées aux Écritures, à l'Évangile de la grâce, à la vérité biblique. Je dis tout ça, je suis conscient que dans un sens, je suis déjà dans le passage de la semaine prochaine et sans doute ça serait l'application aussi du message suivant. Mais pour ce matin, il est bienfaisant de voir, de faire le constat que le Père a répondu. Il a exaucé la prière de Jésus parce que c'était sa volonté. Il a gardé ses apôtres. Il les a consacrés par la parole, cette parole que nous lisons ce matin. Ces choses faites. Parfois, on peut dire, oui, qu'est-ce qui a changé? Mais oui, bien des choses ont changé. La parole est dans le monde. L'Église est là. Jésus a accompli cette mission. Il a arraché de l'empire, de l'emprise du malin des hommes qui ont gardé cette parole et qui ont donné cette parole à d'autres, à nous, des générations, des siècles plus tard. Et c'est grâce à la prière de Jésus, en quelque sorte. Le Père a répondu, il a exaucé la prière de Jésus. Et c'est réconfortant, c'est fortifiant de voir ça, d'entrer dans ses plans et de voir ce que Dieu est en train de faire, de voir qu'il est à l'œuvre à cette époque-là et aussi à notre époque. Je vous invite à la prière. Prions. Merci notre bon Père Céleste de ce que tu as à l'œuvre. Parfois dans notre quotidien, on voit un cycle d'événements qui semble se ressembler. On voit aussi la nature humaine qui ne se bonifie pas. On voit des choses tragiques, comme cette semaine en Nouvelle-Zélande. Et à notre bon Père Céleste, nous te remercions qu'il y a de l'espérance, parce que tu as envoyé ton Fils. Et en lui, il y a quelque chose de radicalement neuf. Tu as arraché de l'empire du malin, de l'emprise du malin, un peuple faible, un peuple qui est à toi, grâce à toi et rien que grâce à toi. Et tu l'as protégé, tu as fait en sorte que cette parole les garde unis et l'évangile est allé aux quatre coins du monde. Et nous sommes là ce matin, nous avons entendu cette parole, nous avons reçu cette parole grâce à toi. Et nous te remercions de ce que tu es à l'œuvre, tu es fidèle, tu es en train d'accomplir tes desseins. Donne-nous de voir ces choses-là et de te faire confiance. Donne-nous une vision spirituelle, une vision lucide de ce que tu es en train de faire, de ce que tu as fait. Cette première victoire décisive à l'époque qui inaugure, qui a, qui nous montre que la victoire finale n'est pas loin. Nous d'avoir des yeux qui voient par la foi, qui espèrent en toi, pour que nous puissions rester attachés à toi, à ta parole, et vivre cette mission auprès de nos amis, nos collègues, cette semaine. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.